France Culture.
France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Quand on visite, quand on explore un archipel, en l'occurrence l'archipel Claudel, on pense au Claudel dramaturge, au Claudel poète, et puis l'on peut débattre. On peut aussi, ce fut le cas en été 2005 sur France Culture, entendre les archives, écouter celles et ceux qui ont parlé de Claudel. Le Claudel, cette nuit, philosophe et théologien.
Je pense que la radiophonie est une auxiliaire inestimable du poète. Elle lui permet de se faire son propre interprète et de substituer l'intention originale à la représentation écrite conventionnelle toujours insuffisante.
Archipel Claudel, une série proposée par François Angelier.
Alors, je peux marcher ?
Oui.
Vous me ferez signe, alors ?
Oui, je vais simplement faire ça.
Claudel, témoignage. Aujourd'hui, philosophe et théologien. Si Claudel n'est pas au sens strict philosophe, si son œuvre ne participe pas d'une élaboration technique conceptuelle, sa méditation sur l'être, le temps, la forme, sa tentative mallarméenne de questionnement de l'être du monde en une continuelle sémiophanie, une véritable et perpétuelle fête du sens et des sens, elle ressort d'une préoccupation métaphysique et philosophique. D'où l'intérêt que lui ont de toujours manifesté les philosophes. Écoutons tout d'abord une première réflexion sur Claudel, délivrée par le métaphysicien Jean Val en avril 1948.
Nous allons aujourd'hui parler de la pensée de Paul Claudel. Et d'anciens souvenirs me reviennent d'abord à l'esprit, puisque c'est en une ancienne année, vers 1908, que Jacques Rivière m'a montré l'arbre. Et en quelques mois et quelques années ensuite, les autres choses de Claudel qu'il possédait. Et je ne me doutais pas que je parlerais de la pensée de Claudel. C'est Claudel, dramaturge, qui d'abord se présentait à moi. Mais depuis, je me suis trouvé étudier la pensée de Claudel et se traiter de la connaissance au monde et de soi-même, où il a résumé sa pensée. Tout est ici fondé sur l'idée de connaissance que Claudel écrit curieusement au premier abord « connaissance, naissance avec ». Nous pouvons lire les premières lignes. « Nous ne naissons pas seuls. Naître pour nous, c'est connaître. Toute naissance est une connaissance. » Et il pense que l'homme est dans le cas général de toute chose, en un sens. Toute chose connaît. Vraiment le bleu, dit-il, connaît la couleur d'orange, vraiment la main, son ombre sur le mur. Vraiment et réellement, l'angle d'un triangle connaît les deux autres au même sens qu'Isaac a connu Rebecca. Ainsi, d'une part, analyse de l'idée de connaissance et explicitation de cette idée comme signifiant qu'il y a une simultanéité de l'âme et de ce qu'elle connaît, et d'autre part remonter au sens biblique du mot connaissance, toutes les deux choses sont présentes dans Claudel. La nature, et nous voyons ici intervenir cette idée sur laquelle nous allons revenir dans un instant, la nature connaît avec ses mers et ses monts, avec ses mines et ses volcans, et le point minuscule de ses brins d'herbe, comme nous avec l'équation, le théorème, le syllogisme et la métaphore. Je ne puis pas lire cette phrase sans me rappeler les brins d'herbe de Whitman. Et à ce propos, il faudrait bien remonter un peu et chercher les sources de la pensée de Claudel. Or, Whitman n'est certainement pas une de ses premières sources, mais il a lu dans la vogue quelques poèmes de Whitman. Quelles sont les premières sources de la pensée de Claudel? C'est Mallarmé, c'est Rimbaud, c'est d'autre part Aristote. Aristote, d'après lui, a donné une réponse au problème que posait Mallarmé. Qu'est-ce que cela veut dire? Et a donné une solution et une réponse à la révolte de Rimbaud. Mais ceci n'est qu'une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que l'acte de connaître pour Claudel, c'est quelque chose qui fait partie de l'ensemble qu'est l'univers. Et l'univers, c'est la version à l'unité, comme il le dit, remontant toujours à l'origine qu'il recherche pour les mots. Et cet univers, il est tout entier expression de Dieu. Il est tout entier Dieu se révélant, mais se cachant aussi, les deux idées de présence et d'absence étant toujours liées dans Claudel. Mais qu'est-ce que l'on connaît? On connaît ce qui nous manque et ce qui est différent de nous. L'univers est différent de l'homme en même temps que semblable à l'homme. Et c'est là l'explication de la connaissance. La chose ne connaît que ce qu'elle exclut, ne connaît que ce qu'elle n'est pas et ce qui n'est pas elle-même. Et ici, la pensée de Claudel rencontre la pensée d'Aristote et celle de Platon. Mais connaître est une forme de l'avoir. Il y a un profond avoir, de même qu'il y a un profond être. Et cet avoir et cet être nous font aller vers l'idée de sens et de signification, vers la différence que nous devons assimiler peu à peu. Or, chaque sens est important pour Claudel, la vue d'une part, le goût de l'autre, mais le goût surtout, et encore plus que la vie. L'homme est né pour se retrouver partout, mais se retrouver tel qu'il a été à l'origine. Il y a toujours chez lui ce qu'il appelle le sens de la tige et ce rattachement placentaire. Et de même que la vue et le goût, quelque chose de plus profond, la respiration, va nous relier à l'univers. Le poète est un inspiré et cette inspiration est liée à sa respiration. C'est que la nature est tout entier un immense organisme à l'intérieur duquel se trouve l'organisme humain. Et nous pourrions d'un mot esquisser les nombreuses relations entre la pensée de Claudel et la pensée récente des philosophes, d'un philosophe par exemple, Heidegger, dans l'idée de nature, présente chez les antésocratiques et chez Heidegger et chez Claudel, dans l'idée de jointure, que curieusement Heidegger place au centre de sa pensée comme Claudel, dans l'idée d'assemblage. Chaque fois, nous voyons un même sentiment.
Avec Gabriel Marcel, converti catholique en 1929, propagateur de l'existentialisme chrétien et témoin du primat de l'être sur les méfaits de l'avoir, la proximité avec Claudel est encore plus proche.
Monsieur Gabriel Marcel, considérez-vous que l'œuvre de Claudel est aussi une œuvre philosophique?
Non. Il est évident que Claudel n'est pas un philosophe et qu'on ne peut pas parler de sa doctrine en tant que telle. Mais ceci ne veut pas du tout dire que sa pensée soit négligeable. C'est d'ailleurs, me semble-t-il, un trait caractéristique de notre temps, que des créateurs non philosophes, un Dostoïevski ou un Kafka, aient pu exercer une influence très appréciable même sur les philosophes professionnels. Et ce rapprochement est d'autant plus justifié dans le cas présent que Claudel a justement professé pour Dostoïevski la plus profonde admiration. Si on s'interroge sur la genèse de la pensée claudelienne, on est amené à faire les constatations que voici. Je me réfère aux mémoires improvisées qui constituent ici un témoignage inappréciable. Parmi les lectures décisives que mentionne Claudel, à côté des tragiques grecs et de Shakespeare, de Bossuet et de Dante, de Rimbaud et de Mallarmé, etc., figure un seul philosophe, Aristote, dont Claudel dit « Sa métaphysique m'a détourné du kantisme ». On peut d'ailleurs douter que Claudel ait jamais eu sur Kant autre chose que des notions de seconde main et fort superficielles. Il est remarquable aussi que Pascal, de son aveu même, ait compté beaucoup moins pour lui que Bossuet.
Par contre, je crois qu'il est indéniable que l'Orient ait marqué Claudel.
Très certainement, et je vais y revenir dans une seconde. En réalité, Claudel a eu d'une part une formation aristotélicienne et thomiste, mais d'autre part, et ceci est sans doute plus important, il a bénéficié d'une immense expérience de la terre et des hommes, une expérience qu'il a merveilleusement assimilée. Et c'est ici qu'il faudrait accorder sans nul doute une place très importante à certaines doctrines d'Extrême-Orient, et tout spécialement au taoïsme, qui a eu sur lui une grande influence. C'est, dit-il, une espèce de glorification du vide, la recommandation à l'homme de toujours se trouver dans un état de disponibilité parfaite. Il a fait sienne la maxime de Chuang Tzu, les choses que l'on peut enseigner ne valent pas la peine d'être apprises. D'où le caractère extraordinairement antiscolaire de cette pensée, orientée vers la contemplation, vers le mystère de la vie unitive, mais qui, il faut le remarquer, ne sacrifie jamais la réalité des choses concrètes. Au contraire, peu d'esprits ont accordé une attention plus fervente aux réalités singulières, appréhendées dans leur singularité même, et en même temps replacées dans une totalité où elles trouvent leur lieu et leur signification, et ceci est particulièrement sensible dans connaissance de l'Est.
Claudel lui-même n'a-t-il pas dit qu'il avait eu la passion de l'univers ?
Justement, c'est une phrase étrangement caractéristique. Mais le mot de signification reste ici essentiel. Claudel lui-même a cité la phrase de Mallarmé. Ce que j'apporte dans la littérature, c'est que je ne me place pas devant un spectacle en disant qu'est-ce que c'est, en essayant de le décrire du mieux que je peux, mais en disant qu'est-ce que cela veut dire. Ceci est déjà très clairement exprimé dans La Ville, où le personnage central, le porte-parole, est précisément le poète Coeuvre. La découverte centrale de Claudel me paraît avoir consisté à reconnaître qu'il y a une connaissance poétique, et même que la seule connaissance tout à fait profonde et authentique est poésie. Ici, on peut dire d'une certaine manière que Claudel prend la suite de Mallarmé, mais en réalité, il inverse le sens de la pensée mallarméenne. Celle-ci, en effet, culminait dans une pensée en quelque sorte enivrée de sa solitude et de sa stérilité. Mais chez Claudel, au contraire, la connaissance poétique débouche sur la plénitude et sur l'inépuisable. On pourrait dire que l'acte poétique se confond avec l'acte même par lequel l'homme nomme les choses, c'est-à-dire non seulement en atteste la permanence, mais formule en dehors même du temps, et ici je le cite, l'ensemble des conditions permanentes dont la réunion donne à chaque chose son droit de devenir présente à l'esprit. Le poète qui est le magistère de tous les mots, et dont l'art est de les employer, est habile, par une savante disposition des objets qu'il représente, à provoquer un état d'intelligence harmonieux et intense, juste et fort. Ces phrases sont extraites de l'art poétique, qui reste le livre clé. Mais on mutilerait la pensée de Claudel, je tiens à le rappeler, si on ne tenait compte d'écrits beaucoup plus tardifs, comme les conversations dans Loir-et-Cher, qui montrent l'espèce de lucidité enthousiaste avec laquelle Claudel a salué les modalités nouvelles de la science et de l'action. En réalité, il n'y a jamais eu d'esprit moins conservateur, moins disposé à s'enfermer dans une considération nostalgique du passé.
Mais vous-même, maître, qu'est-ce que Claudel vous a apporté, ou plus exactement, qu'est-ce qu'il vous a inspiré? Jusqu'à quel point vous a-t-il marqué, comme nous le disions tout à l'heure pour l'Extrême-Orient à propos de Claudel lui-même?
Eh bien, il est assez difficile pour moi de préciser ce que Claudel m'a appris. Mais je suis à peu près certain qu'il m'a communiqué à une certaine époque un ébranlement décisif. Je me rappelle très bien qu'au début de la guerre de 1914, croyant encore que je serais peut-être soldat, ma santé était mauvaise, j'avais copié sur un carnet de grands extraits de la cantate « 7 heures qui est entre le printemps et l'été » et je me préparais à l'emporter avec moi comme un viatique. En réalité, Claudel venait à moi au moment précis où j'avais à peu près fini de me débarrasser de l'idéalisme qui m'avait si longtemps collé à la peau. Je crois aussi que c'est à lui essentiellement que je dois cette idée demeurer fondamentale pour moi de la valeur ontologique de la joie. Idée au nom de laquelle j'ai toujours absolument refusé les philosophies existentielles de l'angoisse, et j'évoquerai ici assez volontiers une conjonction possible entre Claudel et le Nietzsche suprême qui a pu écrire « Toute joie veut l'éternité, la profonde éternité ».
Thomiste revendiqué, Claudel ne pouvait que croiser le chemin du grand historien de la philosophie médiévale et initiateur à Saint-Thomas que fut Étienne Gilson. Ce dernier lui consacre, truculente et savoureuse, une conférence en octobre 1968.
Paul Claudel, poète catholique, ou Paul Claudel, poète, c'est la même chose. Car il a été catholique totalement, agressivement. Je n'aurais donc pas à démontrer le fait, mais à le méditer. Et peut-être est-ce l'évidence même du fait qui appelle d'abord notre réflexion. Beaucoup de poètes français ont été des chrétiens, mais le Claudel me paraît en un sens unique. C'est celui d'un homme qui, doué par nature de ce don poétique dont Boileau même a proclamé la nécessité, l'a tenu pour une sorte de don prophétique et en a délibérément confondu la source avec la grâce chrétienne, comme si de cette grâce sa poésie tenait l'être, le mouvement et la vie. Aucun autre grand écrivain français que je sache ne fut comme lui chrétien en tant que poète et poète en tant que chrétien. En 1946, 9 ans avant sa mort, et parlant en homme plongé dans un océan d'autres hommes, Claudel écrivait « Moi aussi, j'ai habité la Chine en pleine force, en pleine jeunesse. Je me suis fourré avec elle pour vivre dedans, d'une plénitude de corps, d'âme et de sens, dont il serait difficile aujourd'hui de faire comprendre l'agrément voluptueux. » Que trouvait-il de voluptueusement agréable dans cette immense mer pleine de vivants de toutes sortes? Écoutons-le répondre « Tout me plaisait en elle ». Et j'oserais dire non pas même, mais surtout, son désordre, son incurie, sa saleté, sa sagesse imbécile, cette civilisation bon enfant, tout entière basée sur la tradition et la pratique, ce goût de l'art, partout aussi naturel et spontané qu'une industrie animale, sa dégoûtante et profonde et savoureuse cuisine. En religion, source pour moi continuelle d'une indulgence coupable, la magique et magnifique écriture, et surtout cette intensité de la qualité humaine propre. Voilà, n'est-ce pas, ce qui s'appelle non pas aimer la Chine, mais s'y vautrer comme une bête. Cette Chine des années 1900 est ainsi devenue de bonne heure une composante essentielle de Claudel et de son art. Nous le saurions mieux si, au lieu de présenter le soulier de satin comme une pièce de notre répertoire classique, si on pouvait et osait suivre à la lettre les directives de mise en scène prévues par le poète. J'en ai eu la révélation tout à fait inattendue, un jour que j'assistais à une représentation du grand théâtre chinois de San Francisco, avec tous ces gens qui parlaient, qui mangeaient à leur aise, ces enfants qui jouaient dans les allées, entre les fauteuils du parterre, le vacarme ininterrompu de l'orchestre à percussion, sans préjudice de l'incessant va-et-vient des accessoiristes, parfaitement indifférent au jeu des acteurs. C'est cela qui enchantait Paul Claudel. Eh bien, l'ingrédient principal de cette mise en scène et de ce théâtre, s'il faut le nommer de son nom, c'est, je dirais, le désordre. Et le jour où je m'y trouvais plongé à l'improviste, alors que je n'avais pas du tout pensé à Claudel, immédiatement, je pensais le soulier de satin. C'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il n'a jamais obtenu. Prenons donc cette Chine-là comme le symbole qu'elle resta toujours pour lui, le symbole de quoi ? Ici encore, le soulier de satin va nous le dire. Ce sont les premiers mots de l'annoncier, aussitôt après le titre de la pièce. La scène de ce drame est le monde. Claudel situera l'action où il lui plaît, et autant qu'il lui plaît, parce que, comme le monde est l'œuvre de Dieu, le poème dramatique sera celle du poète, faible mais authentique démiurge, lui-même créé, qui est à son œuvre ce que le Dieu chrétien est à l'univers. Tel que Claudel la conçoit, cette notion de création est le premier signe de l'unité substantielle que je voudrais souligner ce soir. Entre son expérience personnelle d'artiste et sa foi chrétienne. Car l'Écriture dit qu'au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Et le poète, le poétesse, est essentiellement celui qui fait. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part pour décrire cet être si merveilleusement un et multiforme à la fois, je ne vois pas de meilleur point de départ que sa notion de création. Je dis bien sa notion de création. Car il est naturel que les admirateurs de Claudel n'admirent pas que lui. Mais certains l'associent dans leur admiration à des compagnons de gloire qui l'accueilleraient de mauvaise grâce. Henri Bergson, par exemple, et sa célèbre évolution créatrice, dont Claudel se méfie. Quand on lui disait que l'évolution expliquait la création de l'univers, il demandait « Et le théâtre de Claudel, c'est l'évolution créatrice qui l'a créé ?» Mais non. C'est Paul Claudel qui explique l'évolution de son théâtre et non pas inversement, et de même pour l'univers. Pour créer, il faut quelqu'un, un créateur. Évolution, ça n'est pas un nom propre, c'est un terme abstrait, et les abstractions ne rendent raison de rien parce qu'elles-mêmes ne sont pas. Toute théologie de l'évolution éveillait donc chez Claudel une méfiance insurmontable et même de la mauvaise humeur. On fait appel à l'évolution, disait-il, que pour se passer de Dieu. Créationniste, Claudel était non moins résolument finitiste en ce qui concernait la matière. La poésie du XIXe siècle a trouvé son texte préféré dans les idées d'infini et d'évolution Il n'y en a pas qui soit plus odieuse à l'esprit d'un véritable poète. Ce n'est pas dans l'infini, c'est toujours sur du fini que l'artiste et le poète travaillent. Et en vue d'obtenir du solide et du définitif, eh bien, tel l'univers claudélien, œuvre de Dieu, suprême artiste, je cite, « L'idée d'un infini matériel, c'est-à-dire d'un fini sans borne, comme elle est un scandale pour la raison, est un désastre pour l'imagination, qui se voit contrariée dans son ressort essentiel, c'est-à-dire ce pouvoir d'ordre, de mesure et de disposition que Dieu a mis en elle à l'imitation de son Verbe créateur. » Il continue, c'est pas moi. « L'idée d'évolution n'est pas moins abominable. » Pour tout dire, Dieu et lui, voyez-vous, ils sont du métier.
Claudel s'est converti seul, s'est perfectionné et formé seul. Et s'il n'a jamais négligé la moindre fête ou sacrement, s'il a souhaité l'état monastique, sa fréquentation des clercs a été importante, bien évidemment, sans être envahissante. L'intérêt que lui ont porté les théologiens a été, lui, permanent. Écoutons tout d'abord l'abbé Morel, peintre, historien, évoquer sa rencontre avec Claudel.
C'est là que Claudel était admirable. C'est que Claudel, qu'on a souvent, je ne dis pas calomnié, mais qu'on a dépeint d'une façon assez grossière, n'est-ce pas, avait tout de même une charité spirituelle extraordinaire. Et il aurait été capable, tout en étant ambassadeur de France aux États-Unis, n'est-ce pas, d'avoir une correspondance journalière avec une concierge du 17e arrondissement, si sa foi avait été en question. N'est-ce pas ? Il avait sous ce rapport une espèce de générosité spirituelle extraordinaire dont j'ai profité. Alors j'ai eu pour moi un accueil merveilleux de Claudel et des lettres de lui qui m'ont été d'un réconfort extraordinaire, qui auraient même eu plus d'importance que celles de Mauriac.
Mais ces lettres portaient sur des matières de foi,
oui,
ou elles portaient sur l'esthétisme ?
Les deux, à savoir que j'interrogeais aussi, mais il passait très vite sur la littérature pour arriver à la spiritualité. Mais quand même, de temps en temps, un beau jour, très malade, je vais le voir. Plutôt, il était très malade et je ne savais pas, il m'avait demandé de venir le voir. Et quand j'arrive, on me dit, vous savez que monsieur est extrêmement malade. Il y a eu déjà trois médecins qui se sont succédés à son chevet ce matin. Il est en observation, il n'est pas question qu'il y ait de visite, il ne faut pas le fatiguer, etc. Je dis, bon, c'est très bien. Voici ma carte, vous direz que je suis venu à l'heure à laquelle il m'avait convoqué. Et puis, comme je tardais à regagner la porte, j'entends la voix de Claudel qui éclate au premier étage. Et il y a une espèce de loggia, là. Et alors, j'entends, mais non, qu'il monte. Et je comprends que Claudel voulait me voir. Alors, j'attends, puis en effet, le domestique arrive très vite. Et me dit, monsieur, je veux vous voir, mais alors, restez très peu de temps et ne le laissez pas parler trop longtemps parce qu'il est assez. Il faut vraiment le surveiller de très près. Alors, je vois Claudette sortir en robe de chambre, en pyjama, s'affaler dans un fauteuil et pousser un soupir, et commencer avec sa voix qui gardait son accent champenois. Eh bien, monsieur l'abeille, je voulais vous voir parce que j'avais quelque chose à vous demander. Je voulais vous demander si vous connaîtriez. Alors, je me dis, ça y est, il veut savoir une référence de livre ou un établissement scolaire, puisque je m'occupais de l'éducation à ce moment-là, où il pourra loger quelqu'un. Et si vous connaîtriez quelque chose de plus absurde que Bajazé. Je dois dire qu'une telle interrogation venant d'un grand malade m'a paru tellement extraordinaire que j'ai dit non au premier abord. Je vois pas. Ah, je suis bien aise de vous l'entendre dire. Dis-moi que c'était l'absurdité monumentale. Et alors il est parti contre Bajazé. J'ai compris qu'il devait être en train de lire Bajazé, que comme le domestique ne l'avait certainement pas lu, qu'il se disait tiens, voilà la mémoire, elle doit connaître Bajazé. Grâce à ça, je vais pouvoir déverser ma colère contre Bajazé sur quelqu'un. Et alors j'ai eu droit à une diatribe contre Bajazé, contre Racine, dont il admirait en admirant certaines autres pièces, aime beaucoup. Mais alors, grâce à cet entretien, immédiatement après, je l'ai amené sur Rimbaud sans le vouloir. Mmh. Et là, alors, il était merveilleux. Pendant trois quarts d'heure, il m'a parlé de Rimbaud de façon telle que j'en ai l'air aux yeux.
C'était alors difficile. Qu'il n'aimait pas beaucoup Peggy, je crois.
Eh bien, il n'avait pas l'air, oui. Je crois qu'il y avait eu des rapports personnels assez tendus entre les deux et qu'au fond. Puis alors, vraiment, les deux poétiques étaient différentes. Et je suis sûr que d'ailleurs, le chemin de Claudel était tellement différent de Peggy. Peggy n'avait rien, certainement, de proche avec Mallarmé, alors que Claudel était parti Mallarmé. Et alors là, je vais vous rapporter quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, parce que par la suite, ça m'a amené à une réflexion extrêmement importante sur le sens et la signification. Claudel m'a dit, voyez-vous, une des choses importantes que j'ai reçues de Mallarmé, c'est que tout a un sens. Que tout peut avoir un sens. Qu'ouvrir une porte a un sens. Que fermer une fenêtre a un sens. Ah, ça m'a paru extraordinaire. Et je me suis dit, mais effectivement, le moindre geste, la moindre chose peut avoir une signification. Et alors, vous citiez tout à l'heure ce que je disais de l'absolu Barbara de Jacob, mais alors, je disais, à propos de vous, ce qui va nous amener d'ailleurs plus tard à en parler, quand on a touché l'absolu, alors on peut de tout le relatif faire un signe. Comprenez-vous ? C'est-à-dire qu'effectivement, à partir d'une certaine réalité, toutes les autres petites choses peuvent être couvertes.
On en arrive à un mot qui, je crois, de Pascal, tout est grâce.
Ben voilà.
Et vous pensez que la foi d'un Max Jacob était très proche de la foi d'un Claudel, en tant qu'homme
d'Église ? Oui, certainement. Ouais. Ils s'entendaient d'ailleurs très bien. Et alors, c'est là ce qui m'a...
Avec des pitreries.
Voilà, oui, mais alors, ce qui m'a frappé... Ah oui, il y a des pitreries chez Max Jacob.
Et chez Claudel.
Chez Claudel, un petit peu.
D'après Barreau, il y a
des pitreries. Oui, c'est un peu exagéré. Oui. Mais il y avait, si vous voulez, cette redécouverte de la foi des simples et de la religion des humbles. Alors là, chez Max Jacob et chez Claudel, c'est ça qui m'a d'ailleurs frappé. C'est que je me suis dit, voilà, chez un homme Max Jacob, comme je vous disais, qui me paraissait presque le Henri Heine de notre époque, n'est-ce pas, l'homme qui, d'une critique, d'une ironie extraordinaire, auquel rien n'échappait, et qui tout d'un coup s'incline et devant des réalités comme les réalités de la foi, c'était quelque chose de tout à fait singulier, et qui m'avait énormément frappé, mais alors à ce moment-là, avec une docilité presque premier communion, et de même chez Claudel.
Thank you.
Résidant à Brangues, non loin de Lyon pendant l'occupation, Paul Claudel s'est trouvé proche du groupe des jésuites de Fourvière, tout à la fois résistant et rénovateur de l'approche patristique et exégétique avec la création de la collection Sources chrétiennes. Parmi eux, le futur cardinal Henri de Lubac. Il évoque Paul Claudel dans une conférence de 1968.
À sa manière, et non pas tant lorsqu'il théorise que lorsqu'il chante, Claudel n'en est pas moins, au plus grand sens du mot, théologien. Claudel théologien, sujet si vaste qu'il mériterait de susciter une armée d'explorateurs. On peut leur promettre bien des découvertes, propres à étonner peut-être, mais pour les ravir d'aise, les meilleurs claudéliens eux-mêmes. Plusieurs s'y sont engagés déjà. C'est ainsi que, malgré bien des réticences, on a commencé de s'apercevoir que la lecture claudélienne des livres saints a beaucoup à nous apprendre ou à nous faire retrouver. Que de profondeur authentiquement biblique, captée dans le miroir magique de son style, comme disait Massignon. Quelle force et quelle sûreté dans l'assimilation d'une immense tradition spirituelle. Et par là, quelle extraordinaire lecture de cette grande page éclatante et peinte en rouge qui, séparant les deux testaments et les unissant tour à tour, éclaire tout. Tout ce qui se passe, avait dit Claudel, est promu à la dignité de signification. Et grâce à l'esprit, qui est l'esprit de l'écriture, l'homme trouve accès de la sorte, selon le mot du psalmiste, au plus profond de son propre cœur. Mais il me semble voir une correspondance plus immédiate, plus radicale, plus incontestable encore. Elle joint le poète non plus seulement aux meilleurs exégètes de la Bible, mais à la Bible elle-même. Je vois une connaturalité de son génie avec le génie d'Israël, une connaturalité tout spécialement avec l'esprit de nombre de ses psaumes que Claudel a tant ruminé, tant actualisé, tant prié. Le génie propre d'Israël, a-t-on écrit, consiste en ce qu'il peut tout transformer en louange. Et comme faisait la voix du psalmiste, la voix du poète au cœur lourd de louange, convie tous les hommes à prendre part à son chant. Elle a besoin de leur voix à tous pour que le grand oui retentisse. Il lui faut l'universelle complicité, car il n'y a pour lui d'église catholique, sinon de tout l'univers. Et c'est là l'un des chemins par lesquels s'ouvre dans la nuit l'accès au mystère de l'élection divine. Aucun de nos frères, quand ils le voudraient, n'est capable de nous faire défaut. Je les entends qui parlent quand nous parlons et qui pleurent quand je me mets à genoux. J'accepte tout. Il y a beaucoup d'étoiles au ciel et leur nombre dépasse tout pouvoir que je l'épuise. Et cependant, il n'y en a pas une seule qui ne me soit nécessaire pour louer Dieu. Il y a beaucoup d'âmes, mais il n'y en a pas une seule avec qui je ne sois en communion par ce point sacré en elle qui dit « Pater Noster ». Poète de l'affirmation lumineuse, chante triomphant de la gloire de Dieu, Claudel se fait plus proche de notre âme, plus secourable à notre situation présente, sans s'écarter de la logique de son affirmation et de son chant, lorsque sa voix devient murmure pour célébrer la nuit et le silence. En notre nom à tous, dans une prière secrète, il dit quelques-uns de ces mots qui, à partir de la circonstance qui les a fait jaillir, se prêtent à un élargissement immense. Ô lieu que le jour nous cachait, ô lieu que mon cœur cherchait. Vous êtes là et c'est assez. Taisez-vous seulement, mon Dieu, afin que votre créature entende. Qui a goûté à votre silence, il n'a pas besoin d'explication.
Autre membre de cette équipe, grand conférencier et connaisseur de Fénelon, le père François Varillon.
J'ai été seul dans le pressoir. J'ai foulé le raisin dans mon délire. Cette nuit où je marchais d'un mur à l'autre en éclatant de rire. Oui, dans l'amère véranda, Jacob s'est battu avec l'ange et une courte lueur, ce sont ses mots, lui a révélé la miséricorde de Jésus-Christ. Courte lueur, ce n'est pas le feu de la veille exaltante où Pascal connut qu'un signe lui était donné, lui certifiant son salut. C'est moins encore l'enthousiasme également nocturne du songe où Descartes sentit le feu lui prendre au cerveau lorsque l'évidence de l'unité des sciences le saisit. Courte lueur. Je pense qu'il faut parler de la nuit de Claudel comme on parle de la nuit de Pascal et de la nuit de Descartes. À partir du séjour en France de Claudel en 1905-1906, les citations d'écrivains profanes interfèrent avec les textes bibliques et patristiques. Des croquis de choses vues, des boutades, des projets, des récits de voyage, des jugements littéraires et artistiques, des détails de tout genre sur la vie familiale et professionnelle du poète, finalement, Claudel au jour le jour. Ce journal écrit à plein bord, qui commence à l'heure où le poète entre dans la terre de son après-midi, peu avant ce moment solennel où dans la vie, comme sur la cime des arbres, l'or commence à apparaître, et qui s'achève 3 jours avant son entrée en agonie, ce journal préservera les glossataires de céder à la vieille tentation déjà dénoncée par Montaigne, vouloir faire les hommes pour les décrire ou les raconter plus commodément, plus un qu'ils ne sont. Claudel n'est certainement pas ce monolithe massif dont il s'est souvent donné l'apparence. Est-ce qu'il était tellement sûr de soi, cet homme abrupt, qui semblait confondre l'erreur objective et l'errance de l'intelligence et n'accordait apparemment aucun droit aux indécis, aux douteurs. Claudel a toujours répugné au « oui, mais » qui conduit à l'heureuse opposition de termes qui se contrepèsent, dont parle le professeur Don Léopold Auguste dans « Le soulier de Satan ». Même si, à un certain niveau, la vérité et la justice sont à ce prix. Sa vérité à lui et sa justice sont autrement situées. Alors, gardons-nous de passer purement et simplement condamnation sur certaines incompréhensions scandaleuses chez un poète qui, dans de larges domaines de la vie, de l'esprit et du goût, allait jusqu'à la pointe la plus aiguë de la délicatesse, de la nuance et de la subtilité. Le vrai, c'est que Claudel, plutôt qu'à des hommes, s'en prend à des types d'hommes. Je dirais exactement à des types d'existence. Les hommes sont rabroués dans la mesure où ils sont représentatifs de ces types. Si Claudel traite de turc à mort le philosophe, le professeur, l'universitaire, c'est qu'il s'en prend à des types de l'existence en dehors de la joie et de l'humour. Il les accuse de ne pas s'ouvrir à l'être de la liberté et de la joie, et d'engendrer ainsi un monde mécanique, c'est le fameux jardin aride, ridiculement fermé au souffle de l'esprit. C'est aussi bien le monde du bourgeois, l'homme de l'avoir, encore un type promu par Léon Blois à la dignité métaphysique. Plus tard apparaîtra un autre type, l'exégète, c'est-à-dire l'homme qui prétend posséder la vérité de la parole de Dieu par les seules ressources de son travail et de sa compétence scientifique. Je pense qu'on aurait grand tort de prendre au sérieux du stade éthique ces jugements qui n'ont de sens qu'au stade religieux de la liberté et de l'humour. Il note dans le journal Goethe, incapable de sourire, dénué de toute espèce d'humour ou d'esprit ou de fantaisie, c'est un âne. On voit que le jugement a un sens typique. C'est l'existence hors de l'humour qui est une ânerie. C'est le sérieux absolu au stade de l'éthique qui est dérisoire. Alors, si Goethe, entre tous ses pairs, et précisément par la vertu de son génie, est éminemment représentatif de cette sagesse, pourquoi se retenir de la ridiculiser en lui et à travers lui ? Serein, tranquille, heureux, accordé à l'harmonie du monde, étranger au paradoxe de la foi, affirmant ne tenir que de soi son équilibre souverain, le grand homme sur son piédestal irrite Claudel jusqu'à la démangeaison.
Avec le père Carré, dominicain, ancien déporté, aumônier des artistes et académicien, le dialogue, on s'en doute, fut intense. Il témoigne en 1955 de la catholicité de l'esprit claudelien.
Chrétienne, elle l'est certainement. Pourtant, je choisirais volontiers pour elle un autre qualificatif, celui de catholique, mais au sens originel du terme, c'est-à-dire universel, car telle est la dimension de cette œuvre. Elle embrasse l'univers de Dieu et l'univers des hommes. On y trouve vraiment Dieu et tout l'humain. C'est d'ailleurs ce qui rend Claudel non pas inactuel, on le lit et on le joue beaucoup, mais intemporel, si je puis dire, hors du temps. Dans le journal de Julien Green, j'ai lu ceci qui me semble très juste. Claudel est inexplicable. Il a dû tomber du ciel comme un aérolithe. Il ne représente ni son temps ni son pays. Les grandes influences qu'il a senties viennent d'ailleurs que d'ici. Les tragiques grecs, la Bible, Dante, sans doute, Shakespeare. Je crois que cela est vrai. Et j'ajouterais que si on veut tenter d'expliquer Claudel, c'est en tout cas dans une double direction qu'il faudra toujours chercher. Le ciel et la terre.
Vous dites qu'on trouve Dieu dans l'œuvre de Claudel. Mais Claudel lui-même a-t-il eu conscience d'une sorte de mission ?
Oh, sans aucun doute, et il l'a maintes fois affirmé. Je prends cette lettre, tenez, qu'il adressait à un prêtre. Je dis que, logiquement, un poète chrétien, pour qui Dieu réellement et véritablement existe et présent, ne peut concevoir et peindre toute chose qu'en fonction de Dieu, sans lequel elle devient mesquine et fausse. Vous avez entendu, en fonction de Dieu, d'un Dieu dont il veut faire, deviner, saisir la présence et l'action, au-delà des réalités immédiates que nous voyons et touchons. En une phrase, Je pourrais dire « Claudel désigne et montre l'invisible à travers le visible » ou, si l'on veut, le divin dans l'humain.
Y a-t-il, mon père, des réalités visibles et humaines auxquelles Claudel s'est attaché dans ce but?
Eh bien, l'amour humain, pour commencer. Claudel a chanté les passions de l'amour avec une force et un lyrisme qui n'ont rien de commun avec les élégies romantiques. Et même le second acte de Partage de Midi, qui est le drame de la tentation et du péché, vous savez, atteint un paroxysme de violence que nous rencontrons chez bien peu d'auteurs non chrétiens. Seulement pour lui, il y a là une leçon, une sorte de preuve de l'existence de Dieu. Et voici ce qu'il affirme. L'amour de Dieu fait appel en nous à la même faculté que celui des créatures, à ce sentiment qu'à nous seuls, nous ne sommes pas complets et que le bien suprême en qui nous serons réalisés est hors de nous quelqu'un. Mais Dieu seul est cette réalité dont les créatures ne sont que l'image. Voilà ce qu'a écrit Claudel. Ainsi, l'homme et la femme s'aiment, mais leur amour n'est que l'image d'un autre amour, l'amour de Dieu pour nous. Et Claudel a affirmé cela en certains versets qui sont extraordinaires par leur audace et très vrais. Ce sont ceux du cantique que Mesa adresse au Christ à la fin du partage de midi. « Ah, je sais maintenant ce que c'est que l'amour, et je sais ce que vous avez enduré sur votre croix, dans ton cœur. Si vous avez aimé chacun de nous, terriblement, comme j'ai aimé cette femme. »
Il me semble pourtant que Mesa est séparé d'Isée sur la terre.
Mais justement, pour Claudel, la femme est, je le cite, « la promesse qui ne peut être tenue », c'est-à-dire qu'elle éveille un sentiment que jamais une créature ne pourra totalement satisfaire ici-bas. Elle montre par là à l'homme que leur cœur à tous deux est bâti pour un amour plus grand encore, le seul qui soit à la mesure de nos capacités et de nos rêves, et qui durera éternellement.
Vous avez dit, mon père, que Claudel était catholique au sens d'universel. Avec l'amour, quelles autres réalités a-t-il saisi aux confins du visible et de l'invisible?
Eh bien, on peut dire toutes. Il est le chantre de la création. Prenez les grandes odes, Magnificat, Feuille de Saint, la messe là-bas, je cite au hasard, vous verrez Claudel solidaire de tout ce que Dieu a créé, et spécialement de toutes les choses et de tous les êtres muets par qui il se sent délégué pour louer le Créateur. Il est solitaire parce qu'il a son âme immortelle et qu'il parle avec Dieu à titre personnel, et il est solidaire de tout le reste. Faisant allusion à sa conversion, il confesse « Le bonheur d'être catholique, c'était d'abord pour moi celui de communier avec l'univers, d'être solide avec ces choses premières et fondamentales que sont la mer, la terre, le ciel et la parole de Dieu. Et c'est tout cela qu'il rassemble, et c'est la terre qu'il rattache au ciel. »
Mais que dit-il de l'homme, de ce mystère que nous sommes à nous-mêmes?
Et c'est par là que je voulais terminer ces trop brèves réflexions, car le sujet est immense. Sur l'homme, sur le destin de l'homme. Claudel s'est maintes fois expliqué, mais je crois que c'est dans son Christophe Colomb que nous rencontrons le thème essentiel. Vous savez le parallélisme magnifique que Claudel a établi et qui revient comme un leitmotiv au long de la pièce. Christophe Colomb s'est mis en route et sa recherche passionnée de l'Amérique est le symbole de la recherche, par tout homme, de l'éternité. Le nouveau monde, eh bien, c'est le symbole visible de l'autre monde, invisible. La terre inconnue, c'est le ciel, le royaume de Dieu.
La comparaison est très belle, et vous l'aviez vous-même évoquée déjà une fois, mon père, au cours d'un précédent entretien.
Oui, je m'en souviens. La comparaison est belle, mais Claudel l'a tout de même corrigée sur un point, en d'autres passages de ses œuvres. Christophe Colomb ne connaissait pas le terme de sa route. Il n'y avait jamais été en Amérique. Et nous, évidemment, nous ne connaissons pas davantage le ciel. Mais il y a cela, c'est que nous avons été créés par Dieu. Donc, nous venons de lui, de sa pensée, de son amour. Nous n'allons pas vers un royaume étranger. Nous retournons là d'où nous venons et où ceux qui sont morts nous précèdent. La seule question, c'est donc de ne pas oublier notre origine, ni le terme qui nous attend. Malheureusement.
Malheureusement, il y a des obstacles. Christophe Colomb lui-même l'a appris à ses dépens.
Eh oui, certainement, mais nous aussi. Christophe Colomb eut à vaincre de nombreuses idoles. Et Claudel les a souvent mises au pilori, ou bien il les a ridiculisées avec humour dans Jeanne au bûcher. L'envie, c'est lui qui parle, l'envie, l'ignorance, la vanité, et pire que toute, l'avarice. J'entends non pas seulement l'avarice de la bourse, mais celle de l'esprit et du cœur.
Et devant ce déchaînement de passions mauvaises, Claudel restait-il optimiste ?
Optimiste, oui, dans le grand élan foncier de sa foi. Évidemment, sa mission n'était pas de dissimuler les tentations très grandes qu'offre le monde. Et vous connaissez, j'en suis sûr, sa prière à Dieu. Faites que je sois comme un semeur de solitude et que celui qui entend ma parole rentre chez lui inquiet et lourd. Il y a une mission, la mission d'inquiéter ceux qui seraient trop vite satisfaits. Mais parce que Claudel était chrétien, il croyait de toute son âme au définitif sauvetage du pauvre monde par le Christ et à notre joie dans la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi son suprême message me semble tenir dans la réplique finale de Jeanne au bûcher. C'est l'espérance qui est la plus forte, c'est Dieu qui est le plus fort.
Les rapports de Claudel au monde juif évoluèrent tout au long de sa vie. De ses jeunes années, marquées par un anti-dreyfusisme qui fut aussi celui de sa sœur, jusqu'à sa vieillesse méditante où il se déclara favorable au sionisme et ami d'Israël, en passant par ses années de méditation biblique et de nombreuses amitiés juives comme celle de Milo, Suarez, le dialogue entre Claudel et les juifs se fit épaule contre épaule, racine contre racine. En 1968, à l'occasion du centenaire de sa naissance, un débat évoque ce long dialogue réunissant Stanislas Fumet, Charles Galperine, éditeur de Claudel, le père Dubois, directeur de l'école biblique de Jérusalem, et Georges Cataoui, juif converti, écrivain ami de Claudel.
Il a toujours dit qu'après la nuit de Noël 1886, étant rentré chez lui, il avait ouvert une Bible d'Osterwald, Bible protestante qu'une amie allemande avait prêtée à sa sœur Camille, et qu'il était tombé sur les textes qui devaient toute sa vie l'inspirer, le dominer, Emmaüs et la parabole de la sagesse. D'autre part, c'est un fait que Claudel n'a pas ignoré l'Ancien Testament avant cela, puisque dans ses souvenirs et dans ses mémoires improvisées, il dit à Amrouche que lorsqu'il était à l'école à Bar-le-Duc, il faisait ses délices des récits de l'Ancien Testament déjà. Il énumère les récits comme les rêves de Joseph et Héliodore chassé du temple qui l'ont particulièrement touché. C'est aussi dans ce même texte qu'il dit à Amrouche « J'ai eu dès ce moment-là, Bar-le-Duc, des amis juifs qui m'étaient très sympathiques. » Il ne faut donc pas simplifier Claudel à l'excès et croire que du jour au lendemain, Claudel s'est intéressé à la Bible qu'il ignorait jusque-là. D'ailleurs, nous sentons bien qu'avant cette date, il y avait un accent biblique dans les œuvres qui précèdent la conversion.
Charles Galperine.
Alors précisément, pour ne pas le simplifier, je vais le compliquer, puisque les événements politiques vont aussi peser. L'affaire Dreyfus va passer par là, et nous savons que Claudel n'était pas du bon côté, ou du mauvais côté, comme il le dit, et qu'ensuite il y a des témoignages, dont celui bien connu de Jules Renard, où nous voyons Claudel laisser percer des propos anti-judaïques, disons, ou antisémites, si le terme n'était pas trop péjoratif ou trop gros. Quant à la sœur Camille, nous savons qu'elle lisait la Libre Parole et que l'influence de Drumont a tout de même été sensible. D'ailleurs, au début de ce cahier, nous avons demandé à un éminent historien, M. Durosel, de nous parler de l'antisémitisme en France à cette époque, parce que, tout au long de la réflexion de Claudel sur Israël, il y a jusque très tard des coups de patte, des réactions surprenantes, puisqu'il y en a une même en 40, n'est-ce pas, où le nom d'Israël n'est pas toujours bien traité. Et je crois qu'il faut garder cette note. Nous verrons comment Claudel l'intègre ensuite dans la vocation d'Israël et dans la figure d'Israël. Elle disparaît à partir de 1942. Et à partir de 1942, il y a chez Claudel tout de même là une attitude toute différente, je crois, n'est-ce pas? Mais jusqu'en 1942, on voit chez Claudel les aspects divers, pas toujours contradictoires, mais tout de même qu'il faut tenir compte des deux aspects, n'est-ce pas?
Mais j'accepterai le mot contradictoire. Oui. Mais est-ce que toute la grandeur de Claudel n'est pas dans la coïncidence de ces contraires et dans le fait que, passionné et spontané, il pouvait s'exprimer sur tout sujet, serait-ce sur Shakespeare, qui a eu une influence capitale sur lui, même sur Virgile, avec contradiction? Par conséquent, nous ne devons pas nous étonner de devoir de temps en temps faire une boutade aux dépens d'Israël. Moi, j'ai une lettre de 1932 où il est ambassadeur à Washington et où il me dit qu'il a abandonné la littérature de fiction, qu'il vit, je le cite plutôt, « Je vis à genoux, dans l'éblouissement sans cesse accru des livres saints, quelle gloire pour Israël !» d'avoir été choisi comme rédacteur et comme dépositaire d'un tel message. Il y en a quatre pages comme
ça.
Donc, nous n'avons pas besoin d'attendre 1942 pour voir cette sympathie. Et d'ailleurs, si tout à l'heure nous passons à sa vie privée, nous le voyons non seulement des Bar-le-Duc, mais un peu plus tard, au lycée, rencontrer Marcel Schwab, qui a été non seulement le meilleur de ses amis, mais celui qui a eu peut-être la plus grande influence sur lui, car c'est Schwab qui lui a fait lire le théâtre des tragiques grecs, et c'est André Suarez qui lui a fait lire Pindare. Je crois tout de même que ces deux amitiés comptent dans sa vie.
Je crois précisément que c'est à Suarez qu'il dit les choses les plus étonnantes sur Israël. Ce que je voulais simplement dire, c'est que Israël est une figure pour Claudel,
oui, n'est-ce pas ?
Et que tout au long de sa vie d'une part, confronté aux événements politiques qui seront les siens, et Dieu sait si depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à Auschwitz il y en a eu, deuxièmement, par conséquent c'est une figure historique et en même temps c'est une figure biblique, les deux plans se rejoignent. Et Claudel trouve le moyen d'intégrer dans sa vision d'Israël comme une figure en négatif et en creux, ce qu'il lui reproche, n'est-ce pas, également tout au long de ses ouvrages.
Je reviens sur l'apparence d'un certain antisémitisme chez Claudel dans sa jeunesse. Là, je crois que c'est tout de même très injuste. Claudel n'a jamais été antisémite. C'est pas parce qu'il a fait quelques réserves sur des caractères juifs qui avaient pu l'agacer comme il en a agacé tant d'autres, n'est-ce pas, qu'il faille voir là quelque chose d'antisémite. Absolument pas. Vous avez des juifs profondément juifs qui sont là-dessus aussi antisémites que Claudel. Et il y a au contraire, alors aujourd'hui, le fait que le juif est très vulnérable, parce que même il a été écorché de partout, une espèce de malaise lorsqu'on trouve dans un auteur qui vous aimait et quelque chose qui vous paraît un petit peu réservé. Dans ce cahier, il y a des notes de Claude Vigée, qui est très synthétique à Claudel, mais vraiment où on le voit très irrité par des choses qui étaient assez courantes, et qu'un juif aurait pu aussi bien dire qu'un chrétien.
Je pense par exemple au scandale qu'a causé en Israël le discours du Saint-Père il y a 2 ans, l'Image de la Passion, n'est-ce pas, où il a pris tout simplement, je dirais, des clichés de séminaire, qui, dans une conscience chrétienne, un peu éclairée, un peu bienveillante. Et ce n'est pas le cas de toute conscience chrétienne, mais enfin, prenons le cas le meilleur. Respecte Israël. Et j'ai l'impression que, à cet égard, l'itinéraire de Claudel, cette ambivalence que M. Katewitz signalait tout à l'heure, pourrait peut-être nous fournir une clé, une méthode de lecture de certains textes traditionnels dans l'Église qui résonnent de façon antisémite, alors que dans l'esprit même, à l'origine, ils ne l'étaient pas. Vous voyez, je suis convaincu que pour Claudel, comme pour certains textes de saint Augustin, Dieu sait pourtant si les Juifs y sont vulnérables, on peut dire que Claudel parle, même quand il emploie des expressions péjoratives, de l'âme juive, du destin juif, comme un destin exemplaire pour toute âme appelée à reconnaître Dieu, appelée à aimer, éprouvant l'amour dans sa vie et par conséquent aussi exposée à l'aveuglement et à la méconnaissance. Et
si vous prenez les prophètes juifs, ils sont terribles en parlant d'Israël.
Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce cahier Paul Claudel. C'est à un moment donné, lorsque Claudel écrit justement le cycle des coups fontaines, et lorsqu'il écrit à Darius Milhaud,
oui.
Et il prend des précautions, c'est-à-dire, il sait très bien la vulnérabilité du juif, et il tient à s'en expliquer, en lui disant, bon, dans une pièce, j'ai pris la défense de la noblesse, et Dieu sait que vraiment, c'était pour des raisons de l'entièreté du cycle. Alors ici, je m'excuse beaucoup, je ne serai pas très gentil avec les juifs, mais il ne faut pas croire que c'est parce que je ne suis pas gentil avec les juifs. C'est par rapport à l'exigence de mon œuvre. Mais il tient quand même à le préciser et à écrire cette lettre à ses amis juifs.
Cette lettre à Darius Milhaud est très importante parce qu'elle coïncide avec la période où, étant consul à Francfort, il a pris contact avec les milieux juifs. Et c'est tout de suite après sa présence à Prague, où il a découvert cet extraordinaire chandelier à ses branches, qui a peut-être été à l'origine d'une partie de ce cycle des coups fontaines et de ce rôle d'Israël. Par conséquent, il ne faut pas croire qu'il y ait contradiction entre les nécessités scéniques et dramatiques qui ont fait que Sichel est ce qu'elle est, comme d'ailleurs les turlures. Et il s'empresse de le dire, mes Français ne sont pas plus sympathiques que mes Juifs.
Il y a souvent une espèce d'ambiguïté dans la conduite de Claudel vis-à-vis d'Israël.
Je ne crois pas qu'il y ait contradiction. Il y a simplement, dans l'attitude de Claudel, en effet, je crois, des clichés.
Ce que le père Dubois nous disait tout à l'heure, et ce qui me semble très important, parce que tout de même le père Dubois vit au contact d'Israël, puisqu'il travaille à Jérusalem, vous avez dit des clichés de séminaire, mon père. Ça me semble très juste comme expression, des clichés qui ne sont pas compris à l'extérieur, qui ne sont pas des clichés antisémites.
Aujourd'hui, on est si peu objectif qu'on ne peut rien dire de quelqu'un ou de quelque chose sans ne vouloir en prendre qu'un côté.
Oui, mais il faut démystifier cette
chose. Oui, mais alors Claudel, justement, a fait du théâtre pour cela. Il y avait plusieurs personnages en lui. Il en a fait des personnages dramatiques qui se contredisaient, se contrariaient les uns les autres. Et tout cela, c'était Paul Claudel. De même, dans sa pensée, il n'y a pas de trou dans la pensée de Claudel, n'est-ce pas? Elle marche constamment, constamment. Comment il ne s'arrête pas, comme quand il parlait d'ailleurs? Et tout ce qui lui vient à l'esprit, même s'il a l'intention de le détruire ensuite avec un nouvel argument, il le laisse, comme Peggy faisait également quand il écrivait. Ça me paraît très important chez les poètes, chez les écrivains, les gens inspirés, c'est qu'ils ne reviennent pas avant de se dire « Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que ça ne va pas peiner un tel ?» etc. Non, je crois que les grands hommes, ils s'en fichent.
Oui, l'œuvre commence.
Évidemment, l'œuvre est plus grande que la pensée d'un journaliste.
Alors, Luc Estan.
Oui, il me semble que ce que nous avons constaté jusqu'à présent, enfin, c'est pour moi un phénomène d'ordre psychosociologique. Claudel, comme on l'a dit, a très bien su récupérer. Il me semble tout à fait naturel que Claudel ait fait en quelque sorte deux parts. Il y avait l'Israël de la Bible, et puis, avec un certain déterminisme tout à fait historique et de sensibilité tout à fait courante, eh bien oui, il a pu faire, enfin, ce qu'on appellerait de l'antisémitisme vulgaire, et je ne crois pas que ce soit de l'antisémitisme vulgaire, c'est simplement ce qui peut frapper comme ça l'entendement, et pour des raisons historiques, par exemple, l'aspect financier qui ressurgit dans le cahier à propos du gardiennage des lieux saints, où on voit les interlocuteurs juifs vraiment blessés par ça. Alors quoi, vous aussi, Claudel, vous avez... Bon, et alors on le voit là, comment Claudel récupère dans une signification spirituelle même la notion de commerce, la notion de finance. Mais je voudrais alors revenir à ce qui était le point de départ, qui est le premier abord, enfin, par Claudel, d'Israël, donc de la révélation. Et c'est là que je voudrais poser une question au père Dubois, parce que j'ai été frappé par une objection que je retrouve dans un article d'Edmond Fleck, et qui touche justement le langage. Je m'explique. Personnellement, j'ai trouvé tout à fait naturel, par rapport aux objections des exégètes, disons catholiques et chrétiens, que Claudel revendique les droits de la poésie, l'assimilation d'un texte, la nutrition, comme il dit. Bon. Seulement, je suis beaucoup plus troublé quand les Juifs, alors, font état que la méconnaissance de l'hébreu par Claudel, et qu'il en a cure, qui, quelles que soient ses notés, quelques facilités qu'il aurait eues, même à apprendre l'hébreu, il s'en est pas soucié. Il n'a même pas cure de ce qui est établi, alors, enfin, par tout le monde, par quelles que soient les confessions religieuses, comme étant des contresens ou des faux sens de la Vulgate. Il s'en moque éperdument. Seulement, si je me mets du point de vue des Juifs, il me semble que là, il y a des susceptibilités légitimes en disant, mais tel mot, telle image, sur lesquels vous faites des gloses poétiques admirables, mais figurez-vous que ça ne veut pas du tout dire ça.
Oui.
Alors, c'est...
Voilà, je vous répondrai en trois étapes. Tout d'abord, je renverserai la perspective et je dirai, il est bien dommage que Claudel n'ait pas connu l'hébreu, parce qu'en fait, on voit ce qu'il en aurait tiré. Les rares fois où il cite un mot hébreu, il en tire vraiment toute la sève, si vous voulez. Bon. D'autre part, je pense que, en lisant Claudel et en comparant les commentaires claudéliens aux commentaires juifs, et à la Bible elle-même, au texte même de la Bible, on se dit, peut-être avons-nous tort quelquefois d'opposer, comme on le fait trop facilement, c'est encore un cliché d'une certaine sous-scolastique ou d'une sous-antiscolastique contemporaine, ah, les Grecs sont venus avec leur catégorie et ce n'est pas biblique, par exemple, ou la Vulgate a traduit en latin et ce n'est pas biblique. Pardon ? Je pense que nous devrions être extrêmement attentifs à ce que j'appellerais la puissance d'intégration du langage biblique et de la langue hébraïque. Et de ce point de vue-là, je pense que quelqu'un qui lit en hébreu la Bible n'est pas gêné par l'espèce d'amplitude de Claudel, parce que cette amplitude est comme synchrone à celle de la Bible. Ou plutôt, la Bible peut intégrer le souffle claudélien, vous comprenez ? L'héritier du Midrash, donc, de la lecture juive de la Bible dans un univers biblique, vous voyez ? Au fond, se moquant un petit peu d'une technique trop linguistique. Vous voyez, Bultmann est très loin de tout cela. Vous comprenez ? Dans un univers biblique, Claudel est l'héritier du Midrash.
J'ai été aussi très frappé par les confidences d'amis juifs, et de Claude Vigeux en particulier, qui, ouvrant une fois avec moi l'évangile d'Isaïe, me dit « Mais c'est incroyable !» Moi, alors, il me citait le verset en hébreu. Il me dit « Comment Claudel a-t-il fait pour traduire ça ? Ça colle absolument, n'est-ce pas ?» Alors, comme nous savons qu'il ne connaissait pas l'hébreu, l'émotion de Claude Vigeux devant une citation d'Isaïe est évidemment très émouvante.
Hubert Juin.
Oui, maintenant, je suis très convaincu par ce que vous dites, parce que justement, ce que vous dites montre une sorte d'adéquation de Claudel avec, attention quand même, avec un monde d'Israël qui est le monde biblique.
Oui.
Mais je pense qu'il faudrait passer au second plan, c'est-à-dire... Claudel est la réalité qui s'appelle Israël et donc qui est le problème de Claudel devant le sionisme. Et je crois quand même que la montée ou la reconnaissance du sionisme par Claudel a été également très lente et n'a pas été si simple.
Alors en ce qui concerne les rapports entre l'Israël qu'on a appelé un peu trop rapidement selon la chair et l'Israël de Dieu, l'Église, Saint Paul qui a lui-même dans sa propre personne subit plus que quiconque la tension entre son appartenance juive et son appartenance à l'Église, a énoncé une doctrine qui demeure la doctrine de l'Église sur la question, qu'on pourrait résumer en quatre propositions, il me semble, dans les chapitres 9 à 11 des Romains, et en particulier dans le chapitre 11e. Lorsque saint Paul parle de l'Israël séparé, il le définit par ces quatre caractères. Tout d'abord, c'est le peuple qui a été porteur des promesses. En second lieu, ce peuple reste chéri à cause de ses pères. Chéri à cause de ses pères, c'est le verset 26 du chapitre 11e. Et qui, actuellement, dans sa séparation même, a gardé une mystérieuse connaturalité avec l'olivier, l'arbre vivant du peuple de Dieu. Troisièmement, son faux pas, cette méconnaissance du Messie, en fait, a été une richesse pour le monde, et la fidélité d'Israël a été la source de la richesse des gentils. Deux choses en même temps. Enfin, quatrième point, d'une façon tout à fait exceptionnelle et unique, Israël, le peuple d'Israël tout entier, est promis à une réintégration, et cette réintégration sera, pour l'Église elle-même, l'occasion d'un mystérieux renouvellement. Donc la résurrection d'entre les morts, c'est une sorte d'épiphanie, si vous voulez, d'une nouveauté dans l'Église. L'Église elle-même gagnera à cette rentrée d'Israël dans son sein. Telle est la doctrine de saint Paul, qui est la doctrine traditionnelle de l'Église, malheureusement, trop souvent oubliée, et c'est le Concile qui nous l'a rappelé récemment. Les chrétiens, au fond, actuellement, n'en tenaient pas compte.
Nous avons toujours la figure biblique d'Israël, et comment, dans les événements, cette figure biblique, qui reste biblique, peut être déchiffrée, n'est-ce pas? Voilà le premier verset de saint Paul qui revient perpétuellement. Vous imaginez ce que Claudel a pu en faire lorsque il a parlé comme personne de l'Holocauste d'Auschwitz, n'est-ce pas, la résurrection d'entre les morts, avec l'amplification claudélienne de la vision historique. Je crois qu'il y a là des textes bouleversants et que seul il a été capable d'écrire.
Oui, au père Dubois.
D'ailleurs, je pense que ici, comme dans les points que nous signalions plus haut, il y a une certaine ambiguïté apparente de Claudel, surtout pour l'âme juive. Parce que d'une part, il fait crédit à la continuité. L'Église, c'est l'Israël de Dieu, n'est-ce pas? L'épanouissement normal de l'âme juive est dans l'Église. Et par ailleurs, comme chrétien, regardant derrière lui, il voit une coupure, une opposition extrêmement nette, deux essences contradictoires, où on est juif ou on est chrétien. Et à certains égards, Claudel est, je dirais, orthodoxe dans sa lecture de la Bible et dans son regard sur Israël, dans la mesure où justement il tient les deux choses en même temps. Vous voyez, très fidèle à la continuité et en même temps marquant bien que l'essence juive, surtout dans la synagogue, il y a des notes terribles dans les vitraux de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Le ghetto, le pôle, etc. Vous voyez. Et par ailleurs, une ouverture de l'âme juive à l'Église, parce que le chrétien oublie peut-être trop son enracinement dans la Bible et le fait que le peuple de Dieu est unique.
Hubert Jouin.
D'ailleurs, dans la pièce que Claudel voulait écrire et qui devait terminer le cycle des coups Fontaine, il dit dans cette même lettre que nous avons évoquée à Darius Milhaud, qu'il s'agira là de la réconciliation des deux religions.
Sur un champ de bataille. Oui, mais comment interpréter alors le fait que cet État, en tant qu'État, quand même, c'est laïque. Il y a une laïcisation de l'État, enfin, tout au moins, si je me fie à ce qui est proclamé officiellement.
Oui, n'est pas sûr.
Alors là, il y a quand même un petit saut à faire.
Oui, mais alors là, vous mettez le doigt sur une question extrêmement complexe. Je vous dirais par exemple mon expérience personnelle de religieux chrétien vivant en Israël est la suivante. Je me sens à la fois extrêmement proche et extrêmement loin des deux extrêmes. En tant que religieux chrétien, d'un ordre qui a quand même une prétention contemplative, ou du moins qui devrait l'avoir, je me sens très près des gens de Meach et Harim, pour qui Dieu est un absolu. Et je me sens très loin d'eux, dans la mesure où, à certains égards, ils ne m'acceptent pas, ils ne tiennent pas du tout à ce qui est une présence chrétienne sur la Terre Sainte. Et par ailleurs, quand je vais dans un kibboutz marxiste, je suis en même temps très proche de ces garçons et de ces filles très ouverts, qui ne demandent qu'à connaître, qui nous demandent de parler de l'Église et de l'Évangile et de la tradition chrétienne. Et en même temps, je me sens très 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 loin de cet univers un peu naturaliste, un peu matérialiste, un peu rivé à la terre, vous comprenez? Et là encore, je pense que Claudel a bien perçu les deux choses, et qu'il oscille entre les deux choses. On ne peut pas ne pas osciller entre les deux choses. Je pense quand même que nous devons être attentifs à l'objectivité du problème lui-même. On pourrait le résumer de la façon suivante. Il y a maintenant un État qui a hérité du peuple de Dieu. Alors, en tant que chrétien, et Claudel au fond se posait probablement la question de cette façon-là, quelle est l'incidence de la vocation théologale passée qui demeure, puisqu'elle est théologale, sur le destin historique de ce peuple qui a maintenant une destinée politique?
Claudel n'a pas pu conclure, parce que ça allait très loin. Et c'est là, je crois, qu'il est véritablement prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce des choses que nous ne pouvons pas définir. Et quand j'ai parlé la première fois du sionisme à Claudel, c'était avant la guerre, il était assez hostile, en principe, au sionisme, parce qu'il trouvait que de la part d'Israël, c'était pas ambitieux. Il disait, évidemment, vouloir un petit pays comme ça, même ce soit la Palestine, c'est très bien. Mais enfin, qu'est-ce que c'est à côté de la vocation universelle d'Israël? Il est fait pour l'humanité, il doit remplir l'humanité, ce qu'il fait, me dit-il. Car on trouve des juifs partout, et ils ont toujours une très grande action, oui, bonne ou mauvaise.
Charles Gattier.
Oui, mais c'est à ce point alors que
apparaît alors cette psychologie de Claudel si difficile à cerner, n'est-ce pas ? Il refuse cela, il refuse un État. C'est à ce propos qu'il a cette correspondance assez extraordinaire dont nous n'avons que la moitié avec un homme qu'il appelait le Juif d'Anvers, ouais. Joseph Schulzinger. Il a été déporté avec sa famille, avec ses enfants, et les lettres de Claudel ont disparu. Et dans les archives de Claudel, on a retrouvé, donc conservées par Claudel, deux lettres importantes et très belles sur le sionisme, n'est-ce pas ? Et alors nous voyons toujours Claudel, avec une extrême loyauté, n'est-ce pas, s'ouvrir à une dimension qu'il n'avait pas aperçue. Et il ne parlera ensuite du sionisme que beaucoup plus tard. Et c'est ce cheminement, d'abord c'est le refus.
Pas un refus. C'est
une gêne.
J'ai souvent trouvé que c'était pas suffisant.
C'est ça.
Voilà, j'ai souvent abordé le sujet avec lui. Et comme Barbier vient de le dire, il a souvent aussi opposé au sionisme cette conception que Nietzsche a résumée en un mot lorsqu'il a dit « Les Juifs ont gagné l'Europe, ils ont gagné le Nouveau Monde, vont-ils perdre tout ça ?» pour regagner l'Asie.
Je voudrais tout de même dire une chose qui m'a beaucoup ému en rassemblant ces documents, c'est que Claudel, je parle du Claudel de tous les jours, n'est-ce pas ? Il est capable de ces actions qui sont tout de même très hautes et très chères pour nous qui aimons sa mémoire. Je pense en particulier à certains textes que j'ai publiés, d'abord sur le fameux jugement de 40 lors de l'effondrement de la France, c'est pas cette espèce de bilan, et où Claudel dit, bien, on est débarrassé du parlementarisme, on est débarrassé des professeurs, on est débarrassé des francs-maçons, on est débarrassé des juifs, etc. Et en même temps, ce sens de la parole qui est très bouleversant. Il note dans son journal, la France s'effondre, et le pape ne dit rien. Et alors arrive tout de même cette lettre au grand rabbin de France en 41, tellement étonnante, n'est-ce pas ? Bien sûr, Claudel ne pensait pas qu'elle serait diffusée sous forme de tract, n'est-ce pas ? Mais voilà, il parle. Il parle quand personne n'a parlé, il prend la plume, quand vraiment les événements sont irréfutables, comme un diplomate, n'est-ce pas ? Il prend acte et il écrit. Et je voudrais rapprocher de cette lettre au grand rabbin qui est connue, une autre lettre moins connue, c'est l'admirable lettre au cardinal Gerlier, quand Claudel apprend, en écoutant à la radio anglaise, le massacre de Chateaubriand. Il se trouve que pour le poète, évidemment, c'est une coïncidence troublante, le même jour, je crois, il apprend la mort du cardinal Baudrillard, deux jours après, les funérailles du cardinal, et il n'en peut plus, il écrit une lettre de révolte et un cri de protestation au cardinal Gerlier. Et je rattacherai cela, alors, à ce sens de la parole prophétique. Claudel, à ce moment-là, est uniquement voué à son étude de la Bible, et il y a un sens de la parole que, je crois, il est le seul à avoir à cette période. N'est-ce pas ? Les écrits du journal sont très émouvants et très significatifs à cet égard.
Il faut noter que le cardinal Baudrillard était l'ancien directeur spirituel de Paul Claudel.
Oui. Hélas. Et ce qui m'a frappé au cours de mes derniers entretiens avec Claudel, et même 3 mois avant sa mort, c'est le fait qu'il n'était pas seulement intéressé par l'Écriture sainte, par l'Ancien Testament, mais qu'il s'était intéressé depuis le jour où il avait lu le livre de Jean de Ménage publié par Stanislas Fumé dans le Roseau d'or, Quand Israël aime Dieu, qu'il avait été frappé par la mystique des Hassidim.
Oui, voyez, d'ailleurs, à cet égard, voyez, je pense qu'on peut préciser que non seulement Claudel a parlé d'Israël, et c'est très important, mais moi je serais plus attentif en tant que, si vous voulez, intéressé à la spiritualité de Claudel, à son attitude intérieure. Je pense que Claudel s'est senti en synchronisme et avec le livre et avec le destin du peuple du livre, n'est-ce pas ? D'une part, on peut dire que la découverte de la Bible n'a pas été tellement l'effet d'une conversion chez lui, c'est le résultat d'une lente maturation intérieure. Il s'est senti peu à peu synchrone avec cette histoire d'un peuple que Dieu mène par une pédagogie spéciale et psychanalyse à longueur de temps, de façon existentielle. Ce n'est pas tellement une doctrine morale qu'une expérience existentielle. Et d'autre part, Claudel a retrouvé dans le destin de ce peuple, même actuellement, comme l'exemplaire parfait de tout destin d'homme. Et je crois que pour nous chrétiens, nous devrions entendre cela comme une doctrine spirituelle, peut-être, mais aussi une invitation à aiguiser notre regard et à regarder le destin d'Israël, de l'Israël de Dieu dont nous sommes issus, et l'Israël de ces Juifs qui nous entourent, avec le regard de la foi dont Claudel a été le témoin.
C'était Claudel Témoignage, quatrième volet, aujourd'hui consacré aux philosophes et aux théologiens. L'émission a été réalisée par Annie Douel, le mixage par Jean-Marc Potry. La série est proposée par François Angelier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 juillet 2005. Pour notre part, c'est demain à la même heure, dans les nuits de France Culture, que nous pourrons entendre le dernier épisode de la série L'archipel Claudel, archives, témoignages. Ce sera Jean de Théâtre, second volet.